Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
L'Europe, berceau de grandes marques automobiles, où la voiture reste le premier mode de déplacement, s'est lancé un défi, la fin de la production et de la vente de voitures thermiques en 2035. C'est donc la course à l'électrique. En Allemagne, près de Berlin, le constructeur américain Tesla a décidé d'ouvrir une immense usine pour produire les véhicules de demain. Le gigantisme est au rendez-vous, 600 000 mètres carrés pour une production annuelle de 500 000 voitures. Si personne ne conteste la nécessité de créer de l'emploi et de réduire la pollution automobile, les écologistes dans la région ne sont pas satisfaits. C'est le reportage de Déborah Berlioz.
Un soleil froid brille à Grünheide ce samedi matin. Sur le site de l'usine Tesla, une cohorte de bus débarque des milliers de curieux venus visiter les ateliers du constructeur automobile. Le chantier est loin d'être terminé, mais Tesla a organisé une journée porte ouverte pour montrer ses premiers bâtiments aux habitants de la région. Une grande roue et des stands de nourriture viennent donner un air de fête à la manifestation. Thorsten, qui vit à quelques kilomètres de là, est venu avec sa fille.
Nous avons visité les ateliers. C'est impressionnant toute la technique qu'il y a derrière. Les lignes de production, je dois dire que c'est une très belle réussite ce qui a été fait ici.
Manu Hoyer habite aussi la région et elle est loin d'être aussi enthousiaste que Thorsten. Avec l'initiative citoyenne Grünheide, elle est venue protester ce matin contre l'usine.
Nous avons installé des affiches et une table d'information afin de montrer aux gens que ce qui se passe ici est une catastrophe environnementale.
Son premier grief, la déforestation. Il y a 2 ans, on ne voyait ici que des pins à perte de vue. Depuis, 90 hectares ont été déboisés pour faire place à cette gigafactory. Certes, il ne s'agissait pas d'une forêt naturelle, ces pins avaient été plantés pour un usage industriel, mais ce coin n'avait pas été touché depuis 20 ans, permettant le développement d'une certaine biodiversité. Et c'est loin d'être la seule doléance de Manu.
Cette région fait partie des plus sèches d'Allemagne. Les derniers étés ont été très secs et les habitants de la région ont été obligés d'économiser de l'eau. Mais maintenant, l'homme le plus riche du monde vient et il peut utiliser autant d'eau qu'une petite ville de 40 000 habitants. C'est absurde.
En vrai, le constructeur a réussi à optimiser sa consommation d'eau, mais les chiffres restent impressionnants. En implantant ici une usine géante, Elon Musk, le patron de Tesla, devrait utiliser 1,4 million de mètres cubes d'eau par an pour fabriquer ses voitures. Cela représente la consommation d'une ville de 31 000 habitants. Mais ces considérations sont très éloignées des visiteurs qui se réjouissent surtout des emplois apportés par Tesla. À terme, au moins 20 000 personnes devraient travailler dans l'usine, et c'est sans compter les sous-traitants. Tesla, c'est donc un pari sur l'avenir pour le Brandebourg. Si aujourd'hui le taux de chômage n'est pas très élevé, c'est parce que la région compte encore des mines et des centrales à charbon. Mais elles devront fermer au plus tard en 2038. Et ce n'est pas le seul changement à venir, selon Gundolf Schulke. Il est le directeur général de la Chambre d'industrie et de commerce de l'Est du Brandebourg.
Nous allons aussi probablement perdre des emplois dans l'industrie de l'acier. Et si nous voulons produire sans émettre de CO2, nous devrons arrêter les hauts fourneaux. Nous avons donc une transformation technologique, mais qui va mettre des gens au chômage. Nous avons donc besoin de créer de nouveaux emplois afin d'accompagner ce changement structurel.
Le constructeur de voitures électriques serait donc nécessaire pour transformer le paysage industriel du Brandebourg, l'amener vers une industrie plus écologique. Christiane Schröder n'est pas insensible à cet argument. Elle est la présidente de la branche locale de l'association de protection de la nature, NABU. Mais selon elle, l'usine aurait pu s'installer ailleurs dans la région, car le site de Grünheide est loin d'être idéal. En effet, il est situé entre 2 espaces naturels protégés et la construction de l'usine risque de modifier l'écoulement des nappes phréatiques.
Il aurait fallu faire des études pendant plusieurs années pour évaluer l'impact sur les nappes. Mais malheureusement, personne n'a pris le temps. Cette construction va donc certainement avoir des conséquences extrêmes sur les espaces protégés alentour, comme la vallée de Lochnitz. C'est une zone où on trouve de nombreuses espèces avec une biodiversité très riche, mais qui dépend largement des nappes phréatiques. Et si quelque chose change à ce niveau, c'est tout l'écosystème qui risque d'en pâtir, et cela nous inquiète beaucoup.
Il faut dire que l'usine s'est construite en un temps record. Tesla a même commencé les travaux avant d'avoir toutes les autorisations nécessaires. C'est légal, certes, mais cela a largement contribué au mécontentement des associations. Pourtant, Tesla promet de prendre soin de la nature. Pour chaque arbre arraché, 3 autres sont plantés, par exemple. De plus, plusieurs espèces présentes dans la zone déboisée ont été déplacées. D'ailleurs, Tesla a discuté avec les associations comme Naboo. Christiane Schröder et ses collègues ont ainsi proposé plusieurs projets pour la région, notamment pour compenser la consommation d'eau de l'usine. Mais ces propositions sont en général restées lettres mortes.
Souvent, on se moquait un peu de nous, on nous reprochait de ne penser qu'à une petite échelle, alors que nous aurions dû réfléchir plus globalement et penser à ce que les voitures électriques pouvaient faire pour protéger le climat. Même si je me demande quand même ce qui est détruit pour extraire les matières premières nécessaires.
Les batteries des voitures électriques semblent en effet coûter cher à l'environnement. Notamment parce que les terres rares qui les composent sont extraites dans des pays où l'écologie n'est pas prioritaire. Au final, le vrai tournant écologique serait de s'éloigner du modèle de la voiture individuelle. Mais ça, on en est encore loin.
Ne pas prendre toujours sa voiture individuelle, et en tout cas pas n'importe laquelle. À Strasbourg, dans l'est de la France, la municipalité dirigée par les écologistes veut interdire la circulation des voitures diesel en 2028 et réduire graduellement la présence des véhicules les plus polluants. Angélique Ferrat.
La circulation des véhicules les plus polluants va être interdite par palier. En janvier 2023, les critères 5 puis 4. Puis 3. Les vignettes Crit Air classent nos véhicules en fait du plus polluant au moins polluant. Toute l'agglomération strasbourgeoise sera concernée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mais Strasbourg veut aller plus loin avec l'interdiction de tous les diesels en 2028. Ce n'est pas inclus dans la loi française, mais c'était une promesse de campagne des élus verts qui sont aujourd'hui à la tête de la ville de Strasbourg et à la tête de l'Eurométropole, l'agglomération strasbourgeoise. Une promesse et surtout un problème local. 8e ville de France, Strasbourg et sa couronne, affichent des taux de pollution élevés. L'Alsace, avec ses autoroutes gratuites, attire un flot ininterrompu de camions venus de toute l'Europe, ceci doublé d'une activité industrielle importante dans le bassin rhénan. Vous comprenez pourquoi les taux de dioxyde d'azote dépassent presque continuellement les normes autorisées dans la capitale alsacienne. Même chose pour les taux de particules fines, les taux d'ozone et de dioxyde de soufre. Bref, on respire mal à Strasbourg. 500 personnes meurent chaque année à cause de cette pollution. D'après Atmo Grand Est, l'association de surveillance de la qualité de l'air, s'y ajoutent les problèmes d'asthme chez les enfants ou chez les personnes âgées. Et surtout, l'association Atmo Grand Est assure que la situation ne peut s'améliorer qu'en bannissant le diesel. Malgré cela, sur 33 communes, seules 4 ont choisi d'interdire aussi les véhicules diesel en 2028.
Comment réussir le virage de l'électrique alors que les voitures à essence et diesel sont vouées à disparaître? Dans le nord de l'Hexagone, la région des Hauts-de-France a l'ambition de devenir un des premiers pôles de production en Europe. Une réindustrialisation souhaitée en haut lieu que Lise Verbeck a suivie pour nous.
L'un des premiers constructeurs automobiles à miser sur l'électrique dans la région, c'est Renault. Nous sommes ici à Douai, dans l'une des plus grandes usines du groupe en France.
Madame Paclet, bonjour, c'est le PR. Je vous appelle, j'ai le rendez-vous de Monsieur Biondo qui est là.
En juin dernier, le pôle Renault Electricity a vu le jour. Il va regrouper l'usine de Douai, mais aussi de Maubeuge et de Ruitz qui sont dans la région. L'objectif est de produire 400 000 véhicules électriques par an à l'horizon 2025 pour que les Hauts-de-France deviennent la plus importante unité de production de voitures électriques en Europe. Avec aussi l'ambition de créer un pôle d'excellence.
On souhaite faire en sorte que tous nos fournisseurs soient impliqués.
Luciano Biondo, directeur de Renault Electricity.
On travaille avec eux pour faire un écosystème performant. Et puis, on va travailler avec toutes les universités, incubateurs, pôles d'excellence de la voiture, toutes le savoir-faire en R&D qui est disponible dans la région. pour travailler ensemble sur les services de la voiture électrique.
5 modèles de voitures électriques seront produits dans les Hauts-de-France et 700 emplois seront créés dans les prochaines années. Ce pôle Electricity s'accompagnera d'une usine de batteries.
À Douai, parce que finalement le terrain était disponible, nous avons construit cette usine de batteries qui va permettre des économies d'échelle en termes de logistique, de coûts. On va mettre en commun un certain nombre de sujets sur l'air comprimé, le gardiennage, le réseau de chaleur, plein d'items comme ça qui vont nous permettre d'avoir une batterie compétitive et donc de produire des voitures électriques compétitives.
Dans la région, 56 000 salariés travaillent pour 3 constructeurs mondiaux. Ce virage de l'électrique, les autres constructeurs vont devoir le prendre également, insiste Bernard Julien, économiste spécialiste de l'industrie automobile.
À partir de 2035, tous les constructeurs présents en Europe seront interdits d'immatriculer des véhicules qui ne seront pas complètement décarbonés. Donc il va bien falloir que Toyota, à son tour, se mette à fabriquer des véhicules électriques, y compris en France. Donc ça, évidemment, le fait que Renault ait sauté le pas avant eux, ça va les aider à faire le choix de rester en France, très probablement. Et puis l'autre constructeur dont chacun guette les signes, c'est évidemment Stellantis, c'est le nouveau nom de PSA. Évidemment, la question de savoir si PSA, Peugeot, Citroën, DS vont à leur tour industrialiser des véhicules électriques sur les Hauts-de-France est une question qui se pose. Et évidemment, on ne peut que souhaiter que, d'une certaine manière, Stellantis mette ses pas dans ceux de Renault pour que la fameuse réindustrialisation automobile de la France soit conduite non seulement par Renault, mais aussi par son concurrent toujours.
Une réindustrialisation encouragée par le gouvernement qui pointait récemment que les modèles de voitures les plus vendus en France sont fabriqués à l'étranger. Emmanuel Macron a annoncé des investissements pour produire sur le sol français 2 millions de véhicules électriques et hybrides. Mais c'est toute la chaîne qu'il faut penser, car pour faire rouler une voiture électrique, il faut des bornes de recharge et cette réindustrialisation pourrait profiter à ces entreprises.
On essaye d'avoir la même technologie qu'on réplique sur toute la gamme de bornes.
Alexandre Borgholt dirige DBT, qui conçoit, fabrique et installe des bornes de recharge pour les voitures électriques. Ces locaux se trouvent à quelques kilomètres de l'usine de Renault à Douai.
Celle-là, elle peut soit recharger une voiture à 150 kW. Pour mettre les choses en perspective, souvent la consommation électrique d'un appartement, c'est entre 3 et 5 kW. Donc 150, c'est la consommation électrique d'une barre d'immeuble qu'on met dans une voiture en une fois. Et ça permet de recharger en à peu près un quart d'heure, on va récupérer quasiment 300 km d'autonomie.
Selon lui, l'importance de l'installation des bornes un peu partout sur le territoire, près des commerces, dans les entreprises, les collectivités, n'a pas été assez anticipée il y a quelques années. Si bien qu'aujourd'hui, son entreprise croule sous les demandes.
On a déjà vu une augmentation de 65% de notre activité sur le premier semestre 2021 par rapport à l'activité 2020. C'est déjà un super signe. Après, quand on regarde même au niveau du plan du gouvernement d'installer 100 000 bornes, qui était normalement à la fin de l'année 2021, on en est à peine à 40, 42 000. On est tout en bas de la courbe et il y a encore énormément à faire. Donc oui, je m'attends à vraiment une explosion de l'activité. Nous, on est en train de regarder comment on peut faire avec nos équipements industriels actuels, 1x4 à 1x5 sur la capacité de production, avant peut-être de devoir changer de site de production. Mais on est vraiment au niveau industriel en train d'anticiper cette augmentation de la demande.
Mais installer des bornes prend beaucoup de temps. Les projets durent entre 10 et 12 mois, car il faut engager des études avec le fournisseur d'électricité Enedis et également faire les travaux de voirie pour amener les câbles d'alimentation sur les sites.
Et en se projetant un peu plus loin, l'énergie la plus respectueuse de l'environnement sera l'hydrogène, produit non pas à partir d'hydrocarbures, mais de renouvelables comme le solaire, l'éolien ou l'hydraulique. Le Portugal a lancé un vaste projet ambitieux qui a reçu le soutien de l'Europe. Les explications de Marilyn Darcy.
Elle porte le nom de ENH2, stratégie nationale pour l'hydrogène, une stratégie qui devrait passer par l'injection de 7 milliards d'euros d'investissement à long terme dans cette énergie verte du futur. Verte car produite à partir d'énergies renouvelables, les barrages hydrauliques, les éoliennes, les panneaux solaires. Le fameux H2 propre pour permettre la transition énergétique et sortir de l'hydrogène gris, celui produit à partir des hydrocarbures, méthane, gaz naturel ou encore pétrole. L'un des projets portugais les plus avancés et qui, à l'oreille de l'Union européenne, s'appelle H2 Sines, du nom du grand port situé à 170 km au sud de Lisbonne. Un projet d'1,5 milliard d'euros qui reposerait sur l'installation de champs de panneaux photovoltaïques dans l'arrière-pays, la reconversion de l'ancienne raffinerie de charbon démantelée et l'exportation de l'hydrogène, notamment vers la Hollande, pour dégager des bénéfices. Mais le consortium qui porte ce projet et dont fait partie le français Engie vient de subir un revers. De grandes entreprises portugaises, l'électricien EDP et la pétrolifère Galp, se sont retirées. Elles estiment que le projet est trop ambitieux et trop lourd à mettre en place pour des productions limitées et pas avant 2030 dans le meilleur des cas. Même si H2 Sines n'est pas abandonné, EDP et Galp préfèrent lancer leur propre projet. Il faut savoir que l'hydrogène vert ne fait pas l'unanimité, car si le principe de l'électrolyse est acquis depuis longtemps, le H2 est un gaz instable, sans odeur, qui pour être transporté doit être associé à l'ammoniac qu'il faut retirer ensuite. Autre question, celle de la fourniture de l'énergie primaire solaire ou éolienne, dite intermittente car dépendante des éléments. Les coûts de production sont donc très élevés et la technologie encore balbutiante. Le gouvernement y croit et tente de calmer les sceptiques. Il vient d'obtenir de l'Union européenne 185 millions d'euros au titre du plan de récupération post-Covid pour lancer les premiers appels d'offres, de quoi consolider l'intérêt des investisseurs.
Music. Et comme tous les vendredis, on termine en musique avec vous, Vincent Théval. Bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Vous nous emmenez cette fois au contact du blues et de la tradition européenne.
Still Moving, c'est le nom de cet album qui paraît aujourd'hui fruit d'une rencontre entre le violoniste et percussionniste italien Mauro Durante et le guitariste britannique Justin Adams, collaborateur de Robert Plant ou Tina Riwen, qui emmène depuis plus de 20 ans le blues au contact des musiques nord-africaines, mais pas seulement, et c'est dans les Pouilles, au sud de l'Italie, que les deux musiciens se sont rencontrés à la faveur du festival La Notte della Taranta il y a quelques années. Leur dialogue prend aujourd'hui la forme d'une dizaine de chansons partagées entre blues et tarentelle, avec des compositions originales mais aussi quelques chansons traditionnelles italiennes remises en musique pour l'occasion, comme cette Coupa Coupa, où l'on peut entendre Mauro Durante jouer du tamburello, percussion typique de l'Italie du Sud. E a casa vudu canotte ninensi, apri compare dammi complimenti, apri compare dammi complimenti. E a casa vudu teni la vicchia buona, e a casa vudu teni la vicchia buona, e a chi è venuto oggi me la può dare, e a chi è venuto oggi me la può dare.
C'est sur ce morceau Coupa Coupa que se termine Accent d'Europe. L'émission a été réalisée par Victor Hull. Retrouvez-nous sur notre site. Abonnez-vous à Accent d'Europe sur vos plateformes de podcast préférées.